Pour 2000 ans d'histoire.
Bonjour, aujourd'hui deuxième partie de notre série sur la sorcellerie, la chasse aux sorcières. Nous nous apercevons à notre grand regret que notre pays se remplit de sorciers et de sorcières. Leur extirpation est un sacrifice très agréable à Dieu. Ernest de Bavière, 1608. D'histoire. Sœur Irina n'avait que 23 ans quand on l'a retrouvée morte, bâillonnée et enchaînée sur une croix parce qu'on la croyait possédée par le démon. Cet exorcisme meurtrier n'est pas tiré d'une scène d'un film, il ne s'est pas passé au Moyen-Âge, mais il y a quelques jours à peine, à Tanakou, dans un monastère perdu quelque part au fin fond de la Moldavie. Plus de trois siècles après les derniers bûchers sur lesquels ont été brûlées des dizaines de milliers de femmes, soupçonnées d'être possédées par le diable, on continue donc d'avoir peur des sorcières et de les persécuter, comme le faisait naguère un sinistre tribunal chargé par le pape d'éliminer l'hérésie et la sorcellerie.
Il faut chasser les démons ville par ville, rue par rue, maison par maison, homme par homme. Nous instituons une sainte inquisition permanente qui sera confié aux frères dominicains.
Le tribunal de la Sainte Inquisition vous abandonne aux bras séculiers, à charge pour celui-ci d'élever un bûcher, de vous y placer jusqu'à ce que mort s'en suive, avant de disperser vos cendres au vent, afin qu'il ne reste rien d'un corps habité par le démon.
Celui qui peut arrêter la fureur des hommes, comme il règne sur la fureur des flots, implorons
des... Pardon, père.
Robert Muchamblé et Lionel Obadia, bonjour.
Bonjour.
Alors, après avoir vu avec vous hier quand, comment, pourquoi et sous quelle forme différente est apparue la sorcellerie dans l'histoire, j'aimerais aujourd'hui qu'on rappelle de quelle manière elle a pu être persécutée et quel est le rôle de l'Église dans une chasse aux sorcières qui devient importante à partir du XVIe siècle et dont vous dites, Robert Muchamblé, qu'elle avait tué plus de 30 000 personnes en Europe.
C'est ça. Voltaire parlait de 100 000, mais les historiens d'aujourd'hui révisent un peu à la baisse. 30 000, c'est déjà quand même quelque chose d'important. Il faut dire que c'est un temps de persécution aussi contre les juifs, contre les morisques, contre toute une série d'hérétiques. 30 000 personnes sur ce qui veut dire de beaucoup plus nombreux procès en réalité et une sorte de croyance générale dans toute l'Europe, mais avec des variations régionales dont on parlera.
C'est assez curieux parce que nous l'avons vu hier, certes, il y a eu le procès des Templiers, de Jeanne d'Arc qui a été accusée de sorcellerie, brûlée à la fin du Moyen-Âge, mais c'est à cette époque-là, à l'époque du Haut Moyen-Âge, par exemple, à l'époque de Charlemagne, on est beaucoup plus indulgent avec les sorciers. Je crois que c'est Charlemagne qui recommandait l'examen des sorciers doit être assez modéré pour épargner leur vie.
Oui, et c'est une chose que l'Église va continuer à travers l'Inquisition, en fait, parce qu'on a l'impression que c'est l'Inquisition qui tue les sorcières. Pas du tout. Dans les pays d'Inquisition, l'Espagne ou l'Italie, on ne brûle pas les sorcières. Ce sont les tribunaux laïcs, les tribunaux royaux. C'est-à-dire, c'est à partir du moment où la sorcière est devenue un enjeu de pouvoir, pas seulement religieux, l'Église a créé le mythe, mais c'est l'État qui tue les sorcières, en particulier dans les grandes zones de persécution.
Alors, justement, parce que l'Inquisition quand même était chargée de l'instruction de ces procès, et vous le dites d'ailleurs, au fond, ça commence à devenir très grave et dangereux pour les sorciers ou les sorcières, à partir du moment où on confond, vous l'avez évoqué, l'hérésie et la sorcellerie. Hein. Je crois que la première grande persécution de ce que l'on considérait comme des sorciers, c'était les Vaudois du sud-est de la France.
Oui, en fait, les premiers sorciers vraiment qui ont fait une affaire, c'est ce qu'on a appelé les Vaudois sorciers d'Arras au début du XVe siècle. Dans une ville, c'est un peu spécial, puisqu'habituellement c'est plutôt à la campagne, on a confondu vaudrie, mais pas exactement la vaudrie du sud-est.
Rappelez que les Vaudois prêchaient la fidélité aux seules écritures, la pauvreté et la non-violence. Il faut qu'on peut se demander pourquoi on les prenait pour des sorciers. Enfin bon.
En réalité, les sorciers ne sont qu'une sorte de synthèse de toutes les grandes hérésies. Et la sorcière, comme tous les hérétiques, est censée manger des enfants, profaner l'hostie, se donner aux démons. Mais c'est la caractéristique de toutes les grandes hérésies. Et on peut se demander si, au fond, ce n'est pas un moment où il y a eu une condensation de toutes les hérésies imaginables à travers le mythe de la sorcellerie.
Est-ce que ce que vient de dire Robert Muchamblé est vrai également dans d'autres religions, dans d'autres civilisations auxquelles vous êtes intéressé dans votre livre La sorcellerie, Lionel Badia?
L'existence des procès, oui. La forme juridique et politique qu'a pris l'Inquisition ne se retrouve nulle part ailleurs avec une telle puissance dans les autres civilisations et sur les autres continents. Et surtout la hargne avec laquelle l'Église chrétienne a elle-même décimé ses plus fervents défenseurs, puisque quand même les Vaudois étaient supposés refléter l'essence la plus pure de la doctrine chrétienne initiale.
Mais pas en obéissant à Rome, c'était ça le problème.
C'était surtout qu'ils prêchaient et que ça représentait un contre-pouvoir.
Comment se passaient justement ces fameux procès en sorcellerie, Robert Muchamblé?
Alors ça s'est mis en place vraiment vers le milieu du XVIe siècle, avec ce qu'on appelle la procédure extraordinaire, qui est une procédure criminelle d'État, dans laquelle, un, il y a une dénonciation, quelqu'un raconte quelque chose sur un voisin, deux, on commence sur cette prétendue sorcière à une recherche de la marque diabolique. Il faut être sûr qu'on n'a pas affaire simplement à quelque chose qui est une querelle de voisinage. Donc on cherche sur son corps la marque diabolique, ce qui veut dire que Satan a eu des relations avec elle, qu'elle est allée au sabbat. Trois, éventuellement, on décrète la torture ou bien on se contente de lui poser des questions et il faut lui faire avouer qu'elle est allée au sabbat et quatre, elle est exécutée, mise au bûcher.
Nous te prions bien humblement au Seigneur Tout-Puissant de bénir ces outils créés par toi pour que nous les mettions au service de ta gloire. Vous pratiquiez la sorcellerie et entreteniez un commerce avec les démons. Je dois exorciser ce diable qui habite encore, au nom du Père Tout-Puissant du ciel, que s'enfuit cet esprit. Avouez.
Oh, vous trame mes consciences. Croyez-vous qu'un homme doive avouer des crimes dont il est entièrement innocent? Rien que pour adoucir ses souffrances.
A qui on peut l'avouer?
Il demande à Dieu le courage qui lui manque. Son Dieu, c'est le démon. Il parvient à l'empêcher de souffrir.
C'est effrayant, les tortures que l'on pratiquait justement pour faire avouer les présumés sorciers ou sorcières, si je puis dire. Il y avait les eaux broyées, il y avait l'échauffement des pieds, il y avait l'épreuve de l'eau aussi.
Absolument. Au Parlement de Paris, c'était uniquement l'épreuve de l'eau.
Vous vous rappelez ce que c'était?
Oui, il s'agit d'attacher le condamné sur des planches et de lui faire ingurgiter de grandes quantités d'eau afin que son corps se distende puisqu'il est lié. Et cette torture était spécifique au Parlement de Paris, mais dans d'autres cas, on utilise la torture du feu, c'est-à-dire des réchauds qu'on rapproche peu à peu des membres de l'accusé, ou encore on utilise l'estrapade, on lève le corps en l'air et on le fait retomber sur des planches à angle aigu, etc. L'imagination humaine est extraordinaire pour ça, mais ce n'était pas seulement pour la sorcellerie. Ça pouvait être aussi le cas d'autres crimes.
L'imagination, si on peut dire aussi, des torturés, parce que justement, l'absurdité. Il y a quelques jésuites déjà qui condamnaient la méthode. Hein. Je pense, vous les citez à Adam Tanner, à Frédéric Speck, qui disait, on fait dire n'importe quoi aux gens qui se prétendent sorciers, parce que justement, on leur promet d'arrêter la torture. Ça, c'est d'ailleurs le procès de la torture en général, et pas seulement celle des sorciers et des sorcières. C'est l'absurdité du système.
C'est le nouvel état d'esprit, néanmoins, parce que vous parlez de gens qui sont de l'époque de Descartes, c'est-à-dire, c'est le début du rationnel. Parce que les jésuites ont aussi été au début, à l'origine de la chasse aux sorcières. Les autres jésuites, comme Speer, sont en train d'évoluer. Et effectivement, ils ne croient plus à la réalité du crime de sorcellerie. On est en train d'avancer vers les Lumières, vers le moment où les philosophes vont dire l'État est épouvantable parce qu'il pratique la torture.
Oui, enfin, on n'en est pas là. Il y a des traités de démonologie qui vous expliquent très scientifiquement, entre guillemets, ce que sont les sorciers, les sorcières, leurs caractéristiques, leurs pouvoirs. Il y a un livre très important, je crois, au XVe siècle, qui s'appelle « Le marteau des sorcières ».
1486, c'est un rapport d'enquête demandé par la papauté à deux dominicains allemands. Ils sont allés en Rhénanie, ils ont fait une enquête de terrain, et ils ont écrit un énorme livre qui s'appelle « Le marteau des sorcières », mais qui ne comporte pas encore le sabbat. la théorie n'est pas complète. Ils disent les femmes de cette région sont dangereuses, elles sont des sorcières.
Alors ça précède justement, cette fin de XVe siècle, les grandes époques, si on peut dire, des grandes persécutions, des grands massacres, 30 000, vous le dites Robert Muchamblé, à partir de la Renaissance. C'est curieux, on dit le Moyen-Âge, c'est une période sombre, retardée. Et ben c'est la Renaissance, c'est les hommes de la Renaissance qui ont vraiment accentué cette répression et ils l'ont rendue extrêmement violente. Pourquoi à cette époque, au XVIe siècle, qu'on se met à persécuter en masse les sorciers et les sorcières, surtout les sorcières?
Absolument. Très exactement, 1560 environ. Tout simplement parce que ce n'est pas seulement la Renaissance. La belle Renaissance est en train de se terminer dans la Réforme, c'est-à-dire dans les guerres de religion. Et on a commencé à brûler des protestants, et puis finalement, on a fini par ne plus brûler les protestants. Et on s'est mis, à ce moment-là, à chercher une sorte d'ennemi viscéral générique qui est pire encore que le protestant, qui est la sorcière. 1560, 1680 à peu près, c'est la grande chronologie des procès en Europe, sauf en Pologne par exemple, où c'est au XVIIIe siècle. Mais pour l'Europe, 1560, 1680, en fait, c'est la grande période des guerres religieuses. En fait, d'une sorte d'affrontement comme on en a connu entre l'Occident et le système soviétique. Une sorte de lutte entre deux blocs, de 1560 à 1648, la paix de Westphalie, pour la domination de l'Europe. Et là-dedans, les sorcières ont été le troisième, pas homme, femme, ils ont été broyés par les deux grandes forces, protestantes et catholiques, qui ont trouvé une sorte de bouc émissaire commode et de super satanisme à travers les sorcières.
Commode et commun, parce que, en fait, les protestants n'ont pas été plus tendres avec les sorciers et sorcières que les catholiques. Je crois que la réforme était dure. D'ailleurs, c'est en Allemagne, parce qu'il y a une géographie quand même de ces persécutions.
Exactement.
On s'aperçoit, vous l'avez déjà dit, qu'en Espagne, lieu de prédilection de l'Inquisition, il n'y a pas eu tellement de persécutions, ou presque pas, ou pas du tout. Il n'y en a pas eu presque pas en Italie. En revanche, l'Allemagne, la Rhénanie, là, ça a été absolument effrayant, Robert Muchamblé.
Oui, plus de 20 000 débouchés sont germaniques, sur 30 000. Pour la France, précisément, les seules zones de grands bûchers, c'est la Lorraine qui n'était pas française à l'époque, mais qui était dans l'ère germanique, effectivement. Mais n'oubliez pas que l'Allemagne est précisément le lieu de la grande lutte protestant-catholique. Jusqu'en 1648, c'est le basculement possible dans un camp ou dans l'autre. Et c'est là que les protestants, comme les catholiques, ont multiplié les bûchers. N'importe où. On brûle à tour de bras, y compris des enfants.
Il y en a eu aussi en France, notamment au Pays Basque, où c'était important. Il y en avait en Angleterre. Il y en a aussi outre-mer, parce que ça, c'est, nous avons exporté notre phobie ou de fantasme sur les sorcières en Amérique, avec le fameux procès des sorcières de Salem. Ça, c'est un peu plus tard, c'est en 1694.
C'est ça, c'est la fin du XVIIe siècle, c'est dans un contexte puritain. Mais c'est à peu près la même chose qu'en Europe. C'est une sorte de transposition des mêmes fantasmes, des mêmes phénomènes qu'en Europe.
Est-ce que c'est la même chose dans le reste du monde, Lionel Badia, à cette époque-là?
Oui et non. Non, parce que pour revenir sur le point qui a été dit, c'est vrai que c'est en quelque sorte une exportation des enjeux qui étaient des enjeux politiques, qui étaient des enjeux de conflits, de pouvoir, tels qu'ils se donnaient à voir en Europe à ce moment-là, dans d'autres lieux qui avaient été colonisés. Mais la sorcellerie est universelle sur certains traits, ça on le sait. Les données de l'ethnologie et d'une histoire non occidentale permettent de le confirmer. D'abord, pour deux choses, au moins l'accusation et le procès, c'est-à-dire la mise en place publique de la figure d'un sorcier ou d'une sorcière, de quelqu'un qui est porteur d'éléments surnaturels néfastes à la société. Simplement, ce qui change beaucoup, c'est que d'une société à l'autre, d'une culture à l'autre, l'issue des procès a été radicalement différente. Et bien souvent, si tout le monde devait avouer, ça c'est un invariant universel, si on cherche perpétuellement à faire admettre à la personne qu'il ou elle est sorcier ou sorcière. En revanche, dans des sociétés où les sorciers avaient une place légitime au milieu des autres spécialistes des faits religieux ou de l'invisible, eh bien, on ne les brûlait pas, on ne les tuait pas, pas toujours, du moins, on cherchait à les contrôler, on cherchait à les intégrer.
Alors, ce ne sera pas le cas dans un grand procès du XVIIe siècle. On évoquait les sorcières de Salem en Amérique. Eh bien, en France, c'est également les sorcières de Salem qui étaient des jeunes filles qui prétendaient avoir été possédées par le démon. C'était le cas aussi, donc, en France, des nonnes du couvent des Ursulines de Loudun, dont l'imagination allait déclencher en 1634 un des plus grands procès de sorcellerie de l'histoire.
L'homme me poursuit, Marcel. Il me tient des propos d'amour. Je subis ses caresses. Brutales. Obscènes.
Sous quelle forme est-ce que cet incube se cache?
Grand Dieu. Grand Dieu.
Messieurs les juges, nous avons entendu les démons parler par la bouche des sœurs de Sainte-Ursule et qui disaient, redisaient sur tous les troncs, que l'accusé était un sorcier.
Et Urbain Grandier, vous avez été reconnu coupable de commerce avec le diable. Vous serez emmené sur la place du marché, lié à un poteau et brûlé vif. Jugement rendu et prononcé à Loudun le 18 août 1634 et exécutoire le même jour. Vous reste-t-il quelque chose à dire?
Messieurs les juges, je suis innocent de tout ceci. Et j'ai très peur.
Et c'était la condamnation d'Urbain Grandier, un prêtre qui avait été soupçonné, accusé par des religieuses d'avoir été possédé par lui. Il est brûlé pour sorcellerie en 1634. C'est un très très célèbre procès. Assez curieusement, Robert Muchamblay, c'est également le moment où la pression, la répression, surtout contre les sorciers et les sorcières, commence à s'atténuer au XVIIe siècle.
En particulier en France, au Parlement de Paris, dans les grandes cours de justice, on commence à ne plus y croire. Mais il faut dire que le moment en question, c'est aussi le temps où Descartes a écrit ses grandes œuvres et où le sens de l'impossible est arrivé, c'est-à-dire le corps humain, pour les nouveaux philosophes, ne plane plus dans les airs, il ne se transforme plus en loup-garou. Donc, il se passe quelque chose qui commence à jeter un doute et à faire que les juges très cultivés, ceux des tribunaux supérieurs, se demandent s'ils ne font pas d'énormes erreurs en condamnant des sorcières. Au Parlement de Paris, on ne brûle plus du tout de sorcières dans les années 1630. C'est terminé.
Et alors, il y a peut-être aussi la crainte, tout simplement, que ces espèces de procès en sorcellerie ne rejaillissent, n'atteignent, ne touchent la cour elle-même. Il faut rappeler qu'après cette affaire, mais enfin, pas tellement après, il y a eu cette fameuse affaire des poisons à laquelle était mêlée Madame de Montespan et où l'on soupçonne justement Madame de Montespan d'avoir assisté à des messes noires, de préparer des philtres d'amour pour un Louis XIV qui commençait à la dédaigner. Au fond, la sorcellerie, peut-être qu'on la persécute moins, mais elle continue.
Tout à fait. On prétend que c'est à cause de ça que Louis XIV et Colbert ont fait passer en 1682 une loi qui fait cesser définitivement la persécution contre les sorcières. Mais l'affaire des poisons, c'est effectivement une croyance à la possibilité de potions magiques, de messes noires, puisque la maîtresse du roi essaie de regagner sa faveur en se faisant faire des messes noires sur son corps dénudé. C'est une affaire extraordinaire que la police a suivie de très près. Et en réalité, la sorcellerie est en train de basculer vers ce qu'elle était auparavant. On ne la persécute plus, on ne brûle plus les sorcières, mais il y a de plus en plus de sorciers et de sorcières qui cherchent des trésors, qui vendent des philtres. À Paris, le lieutenant de police, vers 1700, fait une enquête là-dessus et trouve des dizaines de gens qui vendent de la sorcellerie. Et désormais, ce sont ces vendeurs de sorcellerie, c'est-à-dire ces faux sorciers que l'on accuse et qu'on met en justice ou en police.
Et puis on en parle moins, notamment au 19e siècle, où il n'y a aucun procès en sorcellerie pendant la Révolution. Oui, Léna Badia.
Il y a aussi un événement qui est particulièrement important, c'est celui de l'émergence de la médecine.
Absolument.
Avec le 15e siècle, déjà les premières interprétations en termes biologiques de la possession, de l'hystérie, de choses comme ça. Et cette émergence, cet essor et cette institutionnalisation de la médecine a amené une bascule des tribunaux vers les hôpitaux. Tous les gens qui étaient supposés avoir des comportements qui étaient hors normes et qui étaient susceptibles de les amener justement à l'inquisition.
Tout à fait, la sorcière devient l'hystérique de Charcot.
Et alors la sorcellerie, on n'en parle plus beaucoup, justement, jusqu'à sa réapparition aujourd'hui sous une forme nouvelle, le satanisme ou le luciférisme, dont on écoute un adepte, Xavier Cressman, du groupe Roxette, au micro de Vincent Rodriguez, au 17 mai 1998.
Lucifer, donc, c'est l'ange rebelle, c'est l'ange échu de Dieu, l'ange qui a été envoyé aux enfers par donc Jéhovah, et qui donc, parce qu'il était trop puissant, plein d'orgueil, plein de beauté, en fait, voulait donner la connaissance à l'homme, voulait donner le feu, voulait donner tous les pouvoirs à l'homme. Ce que Dieu n'a pas permis, parce que Dieu voulait quand même garder une certaine main prise sur l'homme. Et Lucifer a voulu enlever tout ça, et le résultat, c'est qu'il est aux enfers, c'est comme nous. Nous sommes renvoyés de l'obscurité.
Comment on pratique le luciférisme?
Point de vue religieux, certains pratiquent le luciférisme par des rites, voire même par l'occultisme. Ce qui veut dire, ils tracent un pentacle, ils tracent des cercles, il y a des rites précis dans des ouvrages. Moi, je vois plutôt le luciférisme comme une philosophie. Pour moi, vraiment, agir comme un lucifériste, c'est dépasser de tout ça le christianisme, c'est-à-dire ne pas être l'opposé du christianisme, mais être vraiment l'ennemi.
Du splendide Alsace du démon qui sourit gentiment sur cette espèce de réapparition au fond de la sorcellerie sous une autre forme. Est-ce qu'on peut parler, dans le cas du satanisme, du luciférisme, de retour de la sorcellerie, Lionel Obadia?
Sous certains aspects, oui, ce satanisme est un satanisme réinterprété qui prend de nouvelles significations, mais les symboles sont exactement les mêmes. Et très curieusement, il se joue exactement la même chose qui s'est jouée il y a plusieurs siècles. C'est-à-dire toujours une sorte de contre-culture qui était avant stigmatisée, tout ce qui était hors de l'Église, et maintenant qui est revendiqué, qui est légitime par un certain nombre de personnes qui pensent que on est dans des sociétés trop judéo-chrétiennes, trop contraignantes. Et donc ce discours, qui est le discours de la liberté, qui est assez ancien par ailleurs, est un discours qui valorise ces figures, la figure de Satan, de Lucifer, comme étant non pas des productions historiques qui s'opposent à l'Église, mais comme étant des entités préalable à l'existence de l'Église.
Vous parlez de discours de liberté, c'est quand même une liberté criminelle. Il faut rappeler tout de même l'apparition aux États-Unis, par exemple, d'une église de Satan qui est responsable de la mort de Sharon Tate il y a déjà quelques années. Il y a le temple de Seth, il y a des profanations de cimetières. Alors la liberté, est-ce que c'est pas plutôt une espèce de provocation d'abord, ou tout simplement une espèce de religion de rechange, ce qui se passe actuellement?
Trois choses. La première, si vous le permettez, c'est que tous les mouvements qui se revendiquent du satanisme ne sont pas des mouvements de sorcellerie. Et dans toute cette vague de mouvements de sorcellerie qui est née à partir de l'ésotérisme du 19e siècle, qui se sont au moins identifiés sur la scène publique, ne sont pas responsables de ces éléments-là. Il y a beaucoup de travaux qui sont menés actuellement, par exemple aux États-Unis, sur la folie satanique, et on trouve que les médias ont beaucoup exagéré le nombre de gens qui souffraient de troubles ou qui se disaient affectés d'un certain nombre de choses à cause de leurs pratiques satanistes ou parce qu'ils avaient été attaqués par des satanistes. Donc, il faut faire attention sur les chiffres. Et justement, il y a en phase un petit peu trop forte là-dessus, parce que ça représente quand même à peine quelques milliers de personnes, c'est pas énorme. La deuxième chose, c'est...
Vous voulez dire qu'ils sont persécutés, au fond, par les médias, comme ils étaient persécutés naguère par l'Inquisition?
Non, ils sont actuellement persécutés par les psychiatres. Ouais. Ce qui est quand même un autre registre de légitimité, c'est la guerre se joue entre les psychologues, psychiatres et ceux qui sont supposés être à l'origine d'un certain nombre de troubles. Et puis bon, l'assassinat de Sharon Tate, Manson, on ne sait pas vraiment, il revendique un tas de choses.
Mais regardez, j'évoquais en tout début d'émission quelque chose qui vient de se produire dans un monastère de Moldavie. En toute bonne foi, un jeune prêtre, croyant une religieuse possédée, l'enchaîne sur une croix. Et elle en meurt. C'était il y a quelques jours, 4 ou 5 jours à peine. Robert Chamblé, est-ce que vous, votre point de vue sur cette espèce de réapparition de la sorcellerie ou des rituels?
C'est du religieux sans église. C'est une caractéristique de notre temps, je crois. La sorcellerie ne fait que partie d'une série de choses qui montent parce que les grandes églises sont fracturées, à mon sens. C'est-à-dire qu'elles n'exercent plus le pouvoir qu'elles avaient quand elles brûlaient les sorcières. Et il y a une expansion de formes multiples de recherche d'une sorte de sacré et de religieux qui n'est pas obligatoirement canalisé par une structure. La sorcellerie, c'est de la croyance, en fait, au pouvoir de soi-même, Freud vous donnerait aussi une réponse là-dessus, au pouvoir de soi-même sur un univers qui est celui de la mort, de beaucoup de choses, de la possibilité de jeter des sorts. C'est aussi l'enfant qui a envie d'agir sur le monde. Alors, il est normal que la sorcellerie remonte, mais elle remonte à toutes les époques. Je ne crois pas que ce soit fondamental actuellement. J'ai même plutôt noté que depuis 10 ans, elle a perdu du terrain dans les enquêtes d'opinion. La sorcellerie et le démon sont en retrait.
Merci Lionel Badia et Robert Muchamblay. Je rappelle, Lionel Badia, que vous êtes l'auteur de La Sorcellerie, publié aux éditions du Cavalier Bleu dans la collection Les Idées Reçues. Et vous publiez prochainement aussi La Religion dans les Sciences de l'Homme aux éditions La Découverte. Quant à vous, Robert Muchamblay, vous avez écrit un livre qu'on a du mal à trouver parce qu'il a été publié en 94 chez Armand Collin, Magie et Sorcellerie en Europe du Moyen-Âge à nos jours. En revanche, vous publiez à la rentrée L'Orgasme et l'Occident, une histoire du plaisir du 16e siècle à nos jours, qui doit paraître fin août aux éditions du Seuil et dont j'espère que vous viendrez nous parler à la rentrée. À lire également La Sorcellerie de Jean Palou, disponible aux éditions des Puffs dans les collections Que sais-je, ainsi que Les Possédés de Loudun de Michel de Certeau, qui vient d'être réédité chez Folio dans les collections Histoire. Vous avez pu entendre des extraits de La Caméra Explore le Temps, consacrée au Qatar, une série de Stelio Lorenzi, Alain Decaux et André Castello, disponible en DVD chez LCJ Éditions, ainsi que du film Les Diables de Ken Russell avec Olivier Reed et Vanessa Redgrave, publié par Warner Home Video. Ces références sont disponibles au 32-30, 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Christophe Papon, Claire Destacan, Claire Tesser et Cédric-Joseph Julien, ainsi qu'à Anne Kobilac pour la réalisation. Bonne fin de semaine à tous et à lundi avec de nouveaux sujets. Lundi, un des plus grands inventeurs américains du siècle dernier, Thomas Edison, l'inventeur de la lampe à incandescence et du phonographe. Mardi, un célèbre contrebandier.